Lorsque nous achetons un ordinateur, nous avons le choix d'installer des logiciels sous licence ou des logiciels libres. Une association montpelliéraine travaille sur la vulgarisation de l'utilisation des logiciels libres. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Myriam Criquet, secrétaire générale et référente droit et management pour Montpel Libre. Bonjour Myriam Criquet.
Bonjour Guylaine.
Alors, est-ce que la définition que j'ai donnée là en début, ça vous convient, ça? Soit des logiciels payants sous licence, soit des logiciels libres. C'est comme ça que vous voyez le monde des logiciels. Ah, voilà.
Pas tout à fait. En fait, les logiciels libres sont sous licence, mais ils ont une licence particulière. Ils ont un droit d'auteur qui est un droit d'auteur aménagé, différent du droit d'auteur classique. C'est-à-dire que quand on parle de logiciels libres, on vise une liberté d'utilisation. Ça signifie que pour que l'utilisateur soit libre d'utiliser son logiciel pleinement, il lui faut d'abord pouvoir accéder au code source quand il ouvre son ordinateur. Ça s'appelle la liberté d'exécuter. Cette accessibilité au code source est permise parce qu'il y a une accessibilité technique, bien évidemment. On voit le logiciel apparaître sur l'écran d'ordinateur, enfin l'écriture du logiciel apparaître sur l'écran d'ordinateur, mais il y a aussi une accessibilité juridique. Personne ne s'accapare les droits d'utilisation. On cède les droits d'utilisation plus ou moins, pour des utilisations plus ou moins variées, mais on cède les principaux droits d'utilisation, donc accessibilité juridique. À côté du logiciel libre, il y a un droit particulier, qui est le droit du libre. Ensuite, il y a une accessibilité économique. Ces logiciels ne sont pas obligatoirement gratuits. Ils peuvent être payants. Mais comme on souhaite que tout le monde puisse en bénéficier, on a pensé une accessibilité économique, c'est-à-dire qu'on a pensé des business models qui permettaient aux logiciels libres d'être gratuits et dans certains cas, on fait rémunérer non pas le logiciel lui-même, mais son installation et sa prise en main, la formation à sa prise en main. Donc ce sont des business models différents. Ensuite, ces logiciels accessibles techniquement, juridiquement, économiquement, sont aussi accessibles humainement. C'est-à-dire qu'on pense à l'humain d'abord. Et dans le monde du libre, il y a 1638 logiciels libres répertoriés aujourd'hui par Framasoft.
Voilà qui est précis, 1638. Demain, c'est
voilà. Il y en aura plus.
Il y en aura plus.
Il y en aura plus, puisque vous allez voir, c'est viral. En fait, les logiciels libres qui existent aujourd'hui permettent de remplir à peu près toutes les fonctions dont on a besoin. On a des logiciels métiers, comme on a des logiciels grand public. Mais en plus de ça, on fait ce que des sociétés commerciales ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'on va développer des logiciels sur des points qui ne sont pas rentables économiquement. Je pense notamment, malheureusement, c'est comme ça que la plupart des sociétés économiques pensent, des sociétés commerciales pensent, je pense notamment aux logiciels qui touchent les personnes qui peuvent avoir un handicap. Il y a dans le domaine du libre pas mal de logiciels sur ce point, alors que c'est plus difficile de les trouver dans le domaine commercial. Donc, première chose, la liberté d'exécuter, ce qui sous-entend une accessibilité. Une fois qu'on a exécuté ce code source, on peut l'étudier. Une fois qu'on l'a étudié, on peut soit le modifier soi-même, soit le faire modifier par quelqu'un. Et quand on l'a modifié, alors on le restitue à l'humanité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le développement des logiciels libres est entre guillemets viral. Quand je mets une licence, je dis quels sont les droits d'utilisation et les obligations aussi de celui qui s'empare de mon logiciel. Mmh. Avec ça, je dirais comment mon logiciel peut ou ne peut pas être commercialisé par la suite et comment les gens vont pouvoir développer par la suite.
Bon.
Et là encore, il y a tout un droit. C'est vraiment, il y a les licences libres et les Creative Commons, mais je pense qu'il y a à peu près 300 licences différentes.
D'accord. Alors, j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir à nouveau, Myriam Criquet, parce qu'il y aurait beaucoup de questions. Mais j'aimerais juste une dernière question un peu générale sur cette association Montpellier Libre, avant d'en venir à notre sujet principal là, qui nous anime et qui est d'actualité, qui est le règlement européen sur la protection des données qui va rentrer en vigueur très bientôt, mais j'aimerais quand même que vous nous présentiez un peu plus globalement cette association Montpellier Libre.
Alors, Montpellier Libre, c'est un groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Ça veut dire que, ou on est des utilisateurs débutants, ou on est des utilisateurs aguerris, ou on est des développeurs de logiciels libres, ou des gens qui accompagnent les développeurs. Il y a à peu près tous les métiers. Moi, par exemple, je suis juriste et manager. Et en fait, je ne suis pas développeuse, mais j'aide et j'accompagne les gens qui font du développement et je traite des sujets que je connais. La spécificité de Montpellier Libre, c'est que l'on a des gens d'origine ethnique différente, de religion différente, d'âge différent. Le plus jeune a 8 ans, la plus âgée a plus de 80 ans. On réunit des gens qui sont au chômage, des gens qui sont des professionnels de leur spécialité, avec de belles reconnaissances. Il y a 5 chercheurs, par exemple, qui travaillent à un niveau international. Mais on réunit aussi des associations, des entreprises, des collectivités territoriales, universités, IUT. Et c'est ensemble qu'on fait les choses. Mmh. C'est pour ça qu'on est le GUL qui a le plus d'activités.
Alors, le GUL, pour les
groupes d'utilisateurs de logiciels libres, GNU Linux, c'est-à-dire qu'on utilise Linux aussi. Un système d'exploitation que l'on connaît tous. Et en fait, si vous voulez, à Montpellier Libre, la spécificité, c'est qu'on fait les choses ensemble et du coup, l'action est importante au niveau quantité, mais aussi qualité. Nous sommes en fait la seconde ville de France pour la promotion du logiciel libre en termes du nombre d'actions.
La première, c'est Paris ?
La première, c'est Paris,
c'est
bien
Paris.
Sûr.
Bah,
mais on a battu Marseille, Lyon et Toulouse.
Bon, voilà. Je vois qu'il y a quand même la compétition dans le logiciel libre.
Non,
ce n'est pas de la compétition.
Non, justement, c'est ce qui est intéressant. Au niveau du management, par exemple, on a imaginé des techniques nouvelles. Il n'y a pas de compétition quand on met tout à la libre disposition de l'humanité. Les gens s'emparent ou non de ce que l'on fait. Et quand on sait que quelqu'un d'autre a le même projet que nous, on l'approche, on lui demande si on peut faire ensemble. Si on peut faire ensemble, on enrichit le projet. Si on ne peut pas faire ensemble, il y a 2 projets qui naissent. Et les gens choisissent librement vers lequel ils vont. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence, il n'y a pas vraiment de compétition. Il y a ce qu'on appelle une coopétition. À des moments, on a des intérêts différents, mais ensemble, on coopère pour pouvoir les mettre en place.
Avec vous, Myriam Criquet, sur FM+, vous êtes secrétaire générale et référente en droit et management libre pour l'association Montpellier Libre. Dans cette première partie d'émission, nous avons vu ce que c'était qu'un logiciel libre. Vous l'avez défini, on a vu aussi ce que proposait cette association. Mais j'aimerais que nous évoquions toutes les deux ce règlement européen sur la protection des données, le RGPD, qui va se mettre en place à partir du 25 mai. Alors, derrière ces gros mots, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, derrière ces gros mots, il se passe des choses intéressantes pour nos libertés. D'ailleurs, j'en profite pour vous proposer de regarder le site de Montpellier Libre. On vous prépare une surprise pour le 25 mai.
Bien, donc il faut l'ouvrir le 25 mai ?
Avant pour pouvoir venir le 25 mai.
Bon, d'accord.
Nous suivre et nous écouter. Et participer, c'est-à-dire proposer aussi. Témoigner, proposer, parce que on a vraiment cette philosophie de, en fait, faire ensemble les choses, la philosophie du partage et l'action du partage. Donc le RGPD, en fait, c'est un règlement européen. Ça veut dire que c'est un texte adopté par l'Europe, précisément par le Parlement et par le Conseil de l'Europe, Et ce texte s'applique directement à tous les États. C'est-à-dire que ce qu'il dit entre en vigueur dans tous les pays membres de l'Union européenne, comme le texte le dit. Et on va voir que même il va aller au-delà, parce qu'il va impliquer des gens qui ne sont pas dans les pays membres de l'Union européenne. Ce règlement européen, dit-on, est relatif à la protection, c'est son titre. Relatif à la protection, ça veut dire que dès le départ, on pense qu'il peut y avoir des atteintes aux données. Et on va mettre en place toute une stratégie qui va empêcher ces atteintes. Mmh. C'est un texte qu'on pourrait appeler presque un texte de quasiment de police. C'est un texte de réaction contre des actions qui ont été dommageables, que l'on a connues et qui ont été dommageables, et notamment celle de Facebook.
C'est ça, vous avez vu notre annonce, en fait, là. Facebook, Twitter, ça ne vous plaît pas, ça?
Non, ce n'est pas que ça ne me plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas. Moi, je suis dans la promotion.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, j'explique les choses. Une philosophie que je partage, qui est, en fait, dans mon ADN, c'est-à-dire dans ma nature et dans ma culture. Par contre, je n'empêche pas les gens d'avoir des positions différentes. Je les interroge quand ils ont des
Bien
positions
sûr.
Différentes.
Alors, Facebook,
c'est la liberté.
Oui.
Mais Facebook est une société qui, au départ, était dans le partage, mais qui ensuite s'est dit comment faire pour demeurer et grandir. Et là, cette société a été parmi les premières à avoir l'idée de bâtir un business model, c'est-à-dire de bâtir une génération de revenus sur la vente de données. Et à partir du moment où on vend des données à différentes personnes, on ne sait pas comment ces données vont être utilisées. Ce business model qui a été imaginé dans les années 2000-2005, et nous avons, dès que nous l'avons connu, nous avons alerté les personnes, enfin, l'ensemble des personnes qui voulaient nous écouter sur les questions que posaient ces business models. Ce business model permet des dérives, et des dérives importantes. Alors, on les a vues, c'est une utilisation qui va être une utilisation dommageable pour celui qui est la personne centre des données. Je pense, par exemple, au gamin, ça, on le connaît tous, cet exemple, le gamin qui a 17 ans va se mettre en état d'ébriété lors d'une fête sur Facebook. Et plus tard, 3-4 ans après, le recruteur qui va dire « non, je ne le prends pas ». Parce qu'à ce moment-là, il était ivre, donc il n'est pas fiable. Donc c'est une utilisation des données qui peut être dommageable. Et on ne sait pas pourquoi et comment, plus tard, les données que l'on met sur Internet peuvent nous être dommageables. Donc nous, on fait d'ailleurs à Montpellier toute une éducation à l'hygiène numérique. C'est-à-dire comment faire pour éviter ces situations dans ce qu'elles ont de plus gros. Mais ces dérives-là sont des dérives minoritaires. Si ces données sont prises par des personnes dans des états totalitaires, alors ça peut conduire des gens à leur décès ou à leur emprisonnement. Et on ne sait pas comment tournent nos sociétés. Malheureusement, on a des exemples récents dans l'histoire qui montrent que des gens étaient en démocratie et tout d'un coup, ça a basculé. Et tout d'un coup, on a utilisé tout ce qu'on savait sur les personnes pour pouvoir avoir des actions qui leur étaient dommageables. Je pense par exemple à ce qu'a fait la Stasi. Si vous voulez, ce qu'on met sur Facebook, à l'époque de la guerre mondiale, on aurait, sous la torture, refusé de donner ces informations. Et là, on les offre, on les met à la vision de tout le monde. Et en plus de ça, les gens qui peuvent avoir connaissance de ces données peuvent avoir des utilisations intéressantes, mais aussi des utilisations dommageables. Autre exemple très pratique, très simple, qui peut vraiment toucher tout le monde, on est en train d'inventer des technologies qui nous permettent d'aller plus loin dans le croisement et l'utilisation des données. On va prendre l'exemple de la blockchain. Aujourd'hui, il est possible, grâce à la technique de la blockchain, liée à celle des objets connectés, de capter des données. Si par exemple, la donnée que je veux capter, moi, propriétaire d'un appartement, et celle de savoir si mon locataire m'a payé le loyer. À ce moment-là, je peux décider par contrat que si mon locataire ne me paie pas un loyer, deux ou trois, une échéance deux ou trois, eh bien à ce moment-là, je vais, par l'objet connecté qui commande la serrure, lui empêcher de mettre la clé dans la serrure. Donc, ça veut dire que la personne pourra dormir dans la rue. Ça, ce sont des choses que l'on est en capacité de faire aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas favorables à toutes les utilisations sur les données. Et des gens comme Facebook vendent leurs données à d'autres qui les utilisent à des fins que l'on ne connaît pas et qui peuvent être très dangereuses pour les individus et pour leur liberté.
Est-ce que le règlement européen sur la protection des données va toucher Facebook ?
Oui, bien sûr, Facebook, mais pas que, parce que ce n'est pas le seul à utiliser nos données. En fait, ceux qui utilisent nos données, ce sont les GAFAM en priorité. Les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ce sont les cinq sociétés qui ont en fait mis leur business model sur la vente des données. Et à partir de ce moment-là, il faut être conscient que quand je vends des données, en trois cercles, j'atteins 2 millions de personnes. C'est-à-dire que si je prends les données que vous mettez sur Facebook tous les jours, eh bien, quand je prends
tous les jours,
premier cercle, c'est-à-dire ceux qui sont vos amis, second cercle, les amis de vos amis, troisième cercle, les amis des amis de vos amis, j'atteins en moyenne 2 millions de personnes pour une personne qui met ses données. Imaginez, 90% des données qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc imaginez ce que l'on offre à tout le monde en permanence. Donc beaucoup de personnes peuvent utiliser ces données de façon positive, et tant mieux, et le font. Et c'est de la donnée saine, et tant mieux. Et puis beaucoup de personnes les utilisent de façon difficile. Et donc, le règlement général sur la protection des données personnelles essaie d'éviter ces dérives. C'est son objectif.
Que dit ce règlement ?
Alors, ce règlement, comme je vous le dis, il est important d'étudier son titre parce qu'il nous explique comment il fonctionne. Ce règlement, il protège en fait les personnes physiques, ça veut dire les individus. Ça veut dire, à contrario, que toutes les données sur les associations et les entreprises ne sont pas protégées par ce règlement. D'accord ? Donc, il faudra se poser la question de ce qui se passe pour les associations et les entreprises. Donc, ces données qui portent sur des personnes physiques doivent être traitées. Et le texte a une vision très large de ce qu'est le traitement d'une donnée. Une donnée traitée, c'est une donnée que l'on va collecter, sur laquelle on va travailler ou pas, que l'on va stocker ou pas, que l'on va ensuite, sur laquelle on va intervenir ou pas, que l'on va diffuser ou pas. Et donc, ce traitement peut être, dit le texte, automatique ou automatisé ou non automatisé. Ça veut dire que quand j'ai des données personnelles que je mets dans un carnet d'adresses, exemple de données personnelles, les données personnelles, c'est toutes les données qui touchent directement ou indirectement, une personne physique.
Son identité, sa date de naissance.
Sa photo peut être une donnée personnelle, mais aussi sa carte bleue, son numéro de sécurité sociale, bien évidemment son adresse, etc. Donc, toutes les données qui peuvent directement ou indirectement se rattacher à un individu sont des données personnelles. Donc, directement se rattacher à un individu, c'est ce que nous avons évoqué. Et ça, il n'y a pas trop de questionnement sur ce point. Mais indirectement, ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut constituer des bases de données, on se pose la question de savoir si on peut anonymiser ou pseudonymiser les données. Anonymiser, ça veut dire qu'on va enlever tout nom. Comme le mot l'indique, anonymiser, pseudonymiser, on va remplacer le nom par un nom d'emprunt ou une appellation de fantaisie. Par exemple, si je prends des données sur Jean Dupont, je l'appellerai Mickey. Ou je l'appellerai Jean Durand ou Émile Durand. Je change en fait son nom. En fait, quand on anonymise et quand on pseudonymise, aujourd'hui, les méthodes de croisement de données, ce qu'on appelle la big data, ces méthodes de croisement de données qui reposent sur des formules mathématiques, des algorithmes, sont tellement puissantes qu'on peut, malgré l'anonymisation ou la pseudonymisation, très souvent retrouver l'individu qui est derrière ces données. Donc ce texte est très intelligent parce que justement il permet de, quand un traitement se rapporte directement ou indirectement à un individu, de s'appliquer. Et ce texte va en fait ne pas empêcher la libre circulation des données. On va quand même pouvoir continuer à offrir nos données. Mais par contre, on va le faire de manière sécurisée. Voilà un peu ce que dit le texte.
Alors, est-ce que ça va supposer que les sociétés donc, que vous avez citées tout à l'heure, les GAFAM, remettent en question leur fonctionnement ?
Complètement. Parce que ce texte, comme on le disait, il est relatif aux personnes physiques qui sont finalement européennes et ils touchent, ou qui vivent sur le sol européen, ils touchent les données qui leur sont directement ou indirectement rattachables. Le texte va même plus loin dans son préambule, c'est-à-dire dans son introduction, il dit « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité ». Et dans le préambule second alinéa, il dit que ce texte prévoit des mécanismes qui devraient être reconnus à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité. Et donc ce texte volontairement a eu une empreinte très large. Elle s'applique à toutes les sociétés qui vont traiter des données européennes, qu'elles soient établies en Europe ou hors de l'Europe.
Ça, c'est important. Hors Europe, que ce soit prévu pour des sociétés internationales.
Oui, puisque les GAFAM, les cinq sociétés qui ont bâti leur modèle économique sur le traitement des données, sont aux États-Unis. Et le paradoxe, c'est que ce texte date de 2016. Il est applicable, en fait, au 25 mai 2018. 80% des entreprises américaines sont aujourd'hui passées au RGPD, appliquent ce texte. Par contre, 80% des entreprises françaises, aujourd'hui, ne l'appliquent pas.
Il y a encore du travail.
Oui, c'est un travail d'éducation et de pédagogie, parce que si on va plus loin, je peux vous expliquer comment on met en place ce texte, en fait. Qu'est-ce qu'il recouvre et comment on le met en place.
Je crains qu'il va falloir faire une deuxième émission, Myriam.
Comme vous voulez. Je réponds à vos questions. Comme vous voulez, je me laisse guider.
Nous allons devoir nous arrêter aujourd'hui, mais vous allez revenir pour une deuxième partie, je crois.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Et en tout cas, en attendant, il faut aller sur votre site, Montpel Libre, pour déjà picorer quelques informations pour les personnes qui n'en avaient pas et vous attendre le 25 mai.
Oui, et ne pas hésiter à nous contacter, à nous poser des questions, à nous proposer des interventions. Nous sommes là pour faire la promotion du logiciel libre, de la culture libre dont le RGPD fait partie et des biens communs.
Merci Myriam Criquet. Au revoir.
De rien, Guylaine.